Il est pile 18h. Et c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Agir plus vite contre le réchauffement climatique. Au sommet international sur le climat organisé près de Paris, Emmanuel Macron appelle les acteurs publics et privés à se mobiliser. Des centaines de milliers d'enfants risquent de mourir de malnutrition dans le centre de la République démocratique du Congo. C'est l'alerte lancée par l'UNICEF qui souligne la nécessité d'intervenir d'urgence dans la région. L'Assemblée nationale se penche sur les nouvelles règles d'accès à l'université. Parmi les sujets qui font débat, la possibilité pour les facultés de choisir les étudiants selon leur profil. Le rassemblement, ça n'est pas gagné pour les Républicains, mais Laurent Wauquiez fait mine de ne pas être ébranlé par le départ de Xavier Bertrand. 2 ans jour pour jour après les accords de Paris sur le climat, la France accueille un nouveau sommet international. Mais cette fois, pas de longues négociations, l'heure est aux engagements concrets et à l'annonce de financements supplémentaires pour être en mesure de contenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés d'ici 2100. Extrait de l'intervention d'Emmanuel Macron.
On est en train de perdre la bataille. Il ne faut pas se tromper. On a signé un accord. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a des décisions ou des velléités de quitter cet accord. Très mauvaise nouvelle, mais on doit tous bouger, parce qu'on aura tous à rendre compte. Et donc ce sommet, c'est pour moi le début d'une nouvelle génération. Un sommet d'abord où il y a les gouvernements, il y a 127 États qui sont représentés. Les régions, les villes, les fonds souverains, les assurances, les banques, les philanthropes, tout ce qui représente l'argent privé, et où il y a les entreprises privées, les ONG, la société civile. Et donc, ce que nous devons faire, c'est très concrètement, chacune et chacun, expliquer les engagements que nous prenons fermement pour changer ce qui est devenu aujourd'hui comme une fatalité. Pour la première fois, beaucoup de chefs d'État et de gouvernement ont accepté de ne pas parler. Et je les en remercie parce que faire le déplacement, venir et ne pas parler, c'est très rare dans nos sommets. Non mais c'est vrai. Mais tous ceux qui ont une annonce, un engagement fort à prendre, auront le droit à la parole en plus de ce qui est prévu.
Et vous aussi, vous avez droit à la parole, Véronique Rebérotte. Vous êtes sur l'île Seguin, à Boulogne, où se déroule ce sommet. Vous allez nous dire les principaux engagements qui ont été pris dans une mise en scène réglée au millimètre.
Écoutez, mon papier vient de disparaître de mon ordinateur, mais je vais vous improviser tout ça. Écoutez, cette mise en scène, il y a une arrivée d'abord en bateau des chefs de l'État, largement filmée sous tous les angles, donc 50 chefs d'État, beaucoup de chefs de gouvernement, et puis une vidéo effectivement projetée en début de cet après-midi, un peu pompeuse, où l'on voyait effectivement l'accord de Paris, le président Macron avoir agi avec l'accord de Paris au même titre qu'un Gandhi, qu'un Mandela, qui avait marqué en leur temps effectivement l'histoire. Après cela, bien quelques annonces effectivement plutôt concrètes. Ce sommet a ressemblé exactement à ce que souhaitait donc le président français, de l'action, du concret, avec eh bien d'abord on peut noter quelques annonces de la part d'abord de grands groupes français, EDF, qui va effectivement investir 25 milliards de dollars d'ici 2020, entre 2020 et 2035, donc sur 15 ans, pour un grand projet de solaire. Il y a ensuite AXA, l'assureur, qui va renoncer en partie à tous ces investissements charbon, en tout cas les plus polluants et les sables bitumineux. Et puis cette annonce aussi de la Banque mondiale qui arrêtera de financer après 2009 l'exploitation et l'exploration du pétrole et du gaz dans le monde. À côté de ça, peu d'annonces au moment où je vous parle. Le sommet est loin d'être terminé, notamment aucun renforcement du financement public. Il existe déjà un fonds vert, 100 milliards également, vous savez, 100 milliards de dollars prévus à partir de 2020 pour aider les plus pauvres. Aucune annonce de ce côté-là, mais encore une fois, le sommet n'est pas terminé. On pourra peut-être avoir des surprises d'ici la fin de la journée. La France non plus ne fait pas d'annonce, notamment sur ses aides particulières et son aide publique au développement.
Bravo pour l'improvisation et merci Véronique Rebérotte avec Hélène Langlois à la technique. En Pologne, le nouveau Premier ministre Mateusz Morawiecki présente son programme au Parlement et sollicite sa confiance, une démarche de pure forme puisqu'il est sûr de l'obtenir. Mateusz Morawiecki est un nationaliste catholique comme Beata Szydło à qui il succède et il a reconduit tous les ministres du gouvernement précédent. Autant dire qu'on est dans la continuité sur tous les plans, Éric Biegala.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire hein, puisque Mateusz Morawiecki, tout nouveau Premier ministre qu'il soit, conservera le portefeuille de ministre des Finances qu'il détenait déjà dans le précédent gouvernement. Quant à celle à qui il succède, Beata arracher de l'eau, elle devient simple vice-premier ministre sans portefeuille. La véritable raison de ce remaniement, qui n'en est pas vraiment un, semble être surtout que Mateusz Morawiecki a davantage la confiance du véritable homme fort du pays, Jarosław Kaczyński, le tout-puissant patron du parti Droit et Justice, le PiS, qui lui, prudemment, n'occupe aucune fonction exécutive. Selon la porte-parole du parti, la véritable mission de Morawiecki, ce sera de pouvoir présenter un visage plus honorable aux partenaires européens. Germanophone, anglophone et ancien banquier, le nouveau Premier ministre devrait pouvoir prendre langue plus facilement avec ses homologues, lesquels multiplient depuis quelques mois les signes de mauvaise humeur vis-à-vis d'un gouvernement polonais de plus en plus ouvertement tenté par l'illibéralisme façon Viktor Orban en Hongrie. Mais sur le fond de la politique qu'entend suivre le nouveau cabinet Morawiecki, il ne semble pas y avoir d'inflexion particulière. Au moment même où était annoncé ce remaniement, en fin de semaine dernière, le Parlement, dominé par le PiS, adoptait deux réformes judiciaires faisant passer peu ou prou la Cour suprême du pays et le Conseil supérieur de la magistrature sous la coupe soit de l'exécutif, soit du Parlement. Hier, c'était une chaîne de télévision privée, TVN24, qui écopait d'une amende de 350 000 euros pour sa couverture des manifestations antigouvernementales de l'année dernière, et ce parce que la chaîne aurait omis de signaler que ces manifestations étaient interdites. Quant à Mateusz Morawiecki, il déclarait sur une autre chaîne de télévision, proche des milieux ultra-catholiques, celle-là, que son ambition en tant que chef du gouvernement, c'était, je le cite, de re-christianiser l'Europe. Pas sûr que, même énoncé dans un anglais ou un allemand parfait, ce type de programme fasse florès à Bruxelles, à Paris ou à Berlin.
Eric Biegala. L'UNICEF s'inquiète de la situation humanitaire en République démocratique du Congo. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, 400 000 enfants sévèrement malnutris risquent de mourir dans le centre du pays en proie aux violences. Et l'instabilité qui règne en RDC fait redouter une crise de grande ampleur, Marie-Pierre Véro.
Une crise qui pourrait être la plus forte urgence l'année prochaine, selon un responsable de l'Office des Migrations Internationales qui rentre de RDC. Les violences dans les deux Kivus, dans l'Est, le Kasaï dans le centre, le Tanganyika dans le sud-est, ont conduit au plus fort déplacement de population au monde cette année et l'année dernière. Il y aurait actuellement 4 millions de déplacés en RDC, dont plus d'1,5 million pour cette seule année. Dernier épisode violent en date à avoir marqué la communauté internationale. 15 casques bleus de l'ONU tués dans une attaque dans l'est du pays le week-end dernier. La pire attaque contre l'ONU depuis un quart de siècle. Le risque de famine pour des centaines de milliers d'enfants ne s'éteindra pas, selon l'UNICEF, avant au moins juin prochain, car les saisons de plantation en 2017 ont été perdus. Chaque année, la malnutrition tuerait 160 000 enfants en RDC. Mais pour les prochains mois, dans le seul Kasaï, le Programme alimentaire mondial avance le chiffre de 250 000 enfants en danger de mort, sans oublier l'épidémie de choléra qui sévit dans 23 des 26 provinces et a fait plus de 1 000 morts cette année. Des crises humanitaires aggravées par l'instabilité politique. Les élections ont été repoussées à décembre 2018, mais l'opposition au président Joseph Kabila ne le souhaite pas. Elle réclame son départ dès la fin de cette année. Son mandat a en effet pris fin en décembre 2016. L'État congolais a en outre dû voter un budget en baisse en raison de la dépréciation du franc congolais. Les agences humanitaires de l'ONU n'ont plus assez de financement. Bref, les ingrédients d'une crise de grande ampleur semblent réunis. La RDC a été classée en niveau d'urgence 3 par les Nations Unies. Seuls 3 autres pays dans le monde sont dans le même cas, la Syrie, l'Irak et le Yémen.
Marie-Pierre Véro. Le rapport annuel de Tracfin décrypte les tendances des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2016. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir.
En un an, les choses ont évolué. Daesh a perdu une grande partie de son territoire, mais l'État islamique compense ce tarissement de ressources financières.
Effectivement, en 2015, l'organisation terroriste contrôlait une partie importante de l'Irak et de la Syrie. Son territoire s'est réduit à quelques poches d'influence. Avant, Daesh pouvait compter sur des butins de guerre, l'extorsion des populations, l'exploitation des ressources naturelles, la taxation des flux commerciaux et les trafics. Mais ça, c'était avant, comme nous l'explique le directeur de Tracfin, Bruno Dalle.
Le fait de plus contrôler un territoire, ça prive Daesh des fruits du contrôle de ce territoire, qu'il s'agisse du racket, de l'extorsion de fonds. Alors là-bas, c'était des impôts, hein, mais c'est l'extorsion de fonds, le pillage des ressources naturelles, d'où l'importance des flux qui viennent de l'extérieur et du rôle de ces collecteurs. Et l'avenir laisse supposer que Daesh aura besoin, pour se reconstituer, de mettre en place des nouveaux circuits de financement. Et donc notre défi pour 2018, c'est d'essayer d'identifier les nouveaux collecteurs de Daesh.
Daesh tente donc de compenser partiellement ses pertes de revenus par un recours au financement extérieur. Les flux financiers peuvent révéler d'éventuels redéploiements géographiques du mouvement. On en est pour le moment davantage à l'observation que aux conclusions, mais Tracfin a enquêté notamment sur des récoltes de fonds par le biais de cagnottes en ligne, des fonds destinés à financer le retour des combattants.
Antoine Marette, l'affaire avait éclaté dans le sillage du scandale DSK. Elle est jugée 6 ans plus tard alors que se succèdent les révélations de femmes victimes de harcèlement sexuel. Georges Tron, maire Les Républicains de Draveil, ancien secrétaire d'État à la fonction publique, comparaît devant la cour d'assises de Bobigny avec son ancienne adjointe, Brigitte Gruel, accusée de viol par 2 anciennes employées municipales. Florence Turme, vous avez suivi cette première journée d'audience.
Chez Georges Tron, l'homme privé se confond souvent avec l'homme public. Grand, mince, cheveux gris, costume sombre, cravate violine sur chemise blanche, le maire de Draveil, éphémère secrétaire d'État à la fonction publique, se raconte avec aisance, les mains posées sur la barre. L'homme privé, c'est d'abord un tropisme littéraire marqué, j'étais plutôt en retard sur les autres dans les matières scientifiques, une collection de stylos, des passions sportives pour les arts martiaux et la montagne. Il marque une pause et une petite série d'accidents qui m'a conduit à découvrir la fameuse réflexologie dont on parle tant. J'avais pignon sur rue pour cette activité, poursuit l'accusé, en tant que fondateur d'une association dédiée aux médecines alternatives. Mais avec la réflexologie, l'interrompt le président, nous sommes dans le domaine privé. N'y a-t-il pas une certaine porosité avec votre sphère publique ? Bien entendu, mais je n'ai jamais pensé que cela pourrait être dangereux. Le débit de parole s'accélère un peu, l'accusé reformule les questions avec parfois un certain agacement. Je n'impose aucune conversation, aucun acte de réflexologie à quelqu'un qui ne le veut pas. La réflexologie a été un moyen de m'attaquer, une caricature fabriquée par mes ennemis politiques qui voulaient ma démission. Vous voulez dire une activité privée qui est devenue une activité publique, insiste cette fois l'avocat général. Georges Tron se tourne vers lui, je veux dire que la réflexologie est devenue un outil pour me nuire de la part du Front National. C'est la thèse du complot politique ignorée par l'acte d'accusation, mais que la défense compte placer au centre des débats pour tenter de démontrer que le témoignage des 2 employés qui ont porté plainte contre Georges Tron était en réalité piloté par son ennemi de toujours, Philippe Olivier, le beau-frère de Marine Le Pen.
Florence Turme au tribunal de Bobigny avec François Rivalon à la technique. Laurent Wauquiez au pied du mur, même s'il a été largement élu à la tête de son parti dimanche, son ambition de rassembler les Républicains est déjà mise à l'épreuve avec le départ de Xavier Bertrand, figure de la droite sociale. Ce départ, Laurent Wauquiez l'a aujourd'hui qualifié de « pas acceptable ». Ludovic Piétenu, les égos et les aigreurs personnelles, c'est le monde d'hier, dit Laurent Wauquiez, qui promet le monde de demain, on va le construire ensemble.
Oui, si Laurent Wauquiez dit tout cela, c'est parce qu'il se sait attendu au tournant, censé respecter son engagement de campagne, être le rassembleur des différentes sensibilités de son parti, mais pas prêt non plus à composer avec tous les cadres des Républicains. Que disait-il hier soir sur TF1 ? Je tends la main à tous ceux qui, de bonne foi, veulent travailler, rassembler, d'accord, mais sans trop s'embarrasser. Il faut une nouvelle génération, de nouveaux visages. Les calculs politiques nous tuent, résume ce midi le même Laurent Wauquiez devant le groupe des députés LR à l'Assemblée, qu'il s'est empressé d'aller voir, parce que ce sont ceux qui ont réussi à conserver leur siège au mois de juin, malgré le renouvellement et le séisme provoqué par l'élection d'Emmanuel Macron, parce qu'il y a parmi ces parlementaires de jeunes pousses sur lesquelles il compte bien s'appuyer pour relancer son parti. Des élus autour de 30 ans qui ont parfois conquis des territoires de gauche. « Je ne vais pas regarder dans le rétroviseur », disait encore hier soir Laurent Wauquiez, allusion à Alain Juppé, 72 ans, qui tweetait hier soir « à lui de jouer maintenant avec sa génération » ou encore Jean-Pierre Raffarin, assez sceptique, qui place le nouveau président LR sous observation, Raffarin, 69 ans, ou Dominique Bussereau, qui se laisse encore la période des fêtes, dit-il, pour réfléchir. Dominique Bussereau, 65 ans, voilà, ce sont peut-être les plus gênés qui n'ont qu'à s'en aller, en tout cas peut-être les plus âgés.
Ludovic Piétenu. Depuis la large victoire de l'Union Paix à Corsica dimanche, l'autonomiste Gilles Simeoni attend l'ouverture d'un dialogue avec l'État. Première étape, la désignation d'une interlocutrice. Au sein de l'exécutif, le dossier corse sera en effet pris en charge par la ministre Jacqueline Gourault, qui travaille auprès de Gérard Collomb. Et puisque l'on parle de la Corse, Sophie Delpont, éclairez-nous sur cette surprenante déclaration de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Après la victoire des autonomistes, il se définit comme indépendantiste dans un entretien aux Échos ce matin.
Oui, c'est un peu comme si Jean-Luc Mélenchon surfait sur la vague de la victoire des autonomistes corses, comme s'il avait oublié son jacobinisme initial, prônant la République une et indivisible. En réalité, la ligne idéologique du chef de file de la France insoumise a évolué sans pour autant devenir sécessionniste. Le député France insoumise assume ce virage poussé par la réalité du terrain, comme il l'écrit sur son blog le 7 novembre dernier. Quand une île française élit 3 députés sur 4 parmi les autonomistes, il est devenu vain d'ignorer que quelques quelque chose de très profond et peut-être d'irréversible s'est produit. On ne peut pas faire vivre ensemble des gens qui ne le veulent pas ou ne le veulent plus aux anciennes conditions, selon lui. Et il recommande qu'on cesse de confondre le jacobinisme et l'autoritarisme bonapartiste, selon ses mots.
À travers l'interview d'aujourd'hui, Sophie, Jean-Luc Mélenchon souhaite appliquer le même concept à l'Europe.
Oui, car c'est le prochain combat électoral, la ligne de mire pour la France insoumise, les élections de 2019 qu'il faut préparer pour espérer mobiliser les citoyens qui se sentent souvent très peu concernés par ce scrutin. Alors chaque occasion est bonne à prendre. Là, il s'agit de parler d'Europe avant le Conseil européen de Bruxelles jeudi, où il sera question du Brexit. Jean-Luc Mélenchon souhaite réaffirmer qu'il ne veut pas quitter l'Europe, mais qu'il prône une sortie des traités, une harmonisation sociale et fiscale et un nouveau rôle de la Banque centrale pour qu'elle puisse prêter directement aux États. Le plan B, la sortie de l'UE, n'était donc que la seconde option. Si la première, le virage social à 180 degrés, échouait, un peu à l'image de la différence entre autonomie et indépendance.
Sophie Delpont, les députés entament le débat sur le projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants. Suite au scandale du logiciel APB, le gouvernement a mesuré la nécessité de plancher au plus vite sur l'avenir de l'université. Il promet une transformation en profondeur. La droite trouve que le projet ne va pas assez loin. À gauche, on le soupçonne d'instaurer une sélection face à l'afflux d'étudiants. Parmi les grandes mesures qui font débat, il y a le fait que les facultés pourront elles-mêmes choisir leurs étudiants en fonction de leur profil. Cela risque de se traduire pour beaucoup de bacheliers pro et techno, notamment par une année de remise à niveau. Le dispositif doit être généralisé à la rentrée. Hakim Kasmi, vous êtes déjà allé à Nantes, à l'université de Nantes, où il est expérimenté.
Et oui, nous sommes en cours de remédiation. Dans la classe, ils sont une quinzaine d'élèves en première année d'histoire. Tous sont volontaires et viennent de bac pro et technologique. L'objectif est de leur redonner les bases en leur apportant de la culture générale et de la méthodologie. Pour y parvenir, ils feront leurs deux premières années de licence en trois ans en alternant les cours classiques et les cours de remise à niveau. Frédéric Paguerne est l'un de leurs professeurs. Il a été choisi car il enseigne également en BTS et connaît donc bien, très bien le profil de ses élèves.
La plus grosse difficulté, c'est de se représenter un écrit assez long. Ça, c'est la difficulté majeure, bien entendu. Et par exemple, les élèves de bac pro sont souvent jugés sur des écrits assez courts, notamment les synthèses. La synthèse n'a rien à voir entre le bac pro et l'université. Mais les étudiants de l'université qui suivent des cursus, on va dire, plus généralistes, plus classiques, sont confrontés parfois aux mêmes difficultés.
Il faut savoir que le taux de réussite en licence n'est que de 3% pour les bacs pro et de 34% pour les bacs technologiques. Ce qui n'a pas découragé Justine, en première année de STAPS et titulaire d'un bac STMG, elle ne pensait pas pouvoir suivre des études à l'université.
C'est vrai qu'en bac techno, surtout en STMG, il y a beaucoup de mauvais regards, on va dire, sur cette filière et on se dit, bon, bah, je suis pas scolaire, je fais une filière qui vaut pas, quoi, enfin, qui par rapport aux autres. Mais au final, on se retrouve en STAPS, en filière mélangée avec des bacs S ou des choses comme ça. Du coup, ça redonne un peu confiance. Ouais.
Mais pour pouvoir pérenniser ce dispositif, l'Université de Nantes, qui bénéficie déjà d'une aide de 30 000 euros de la part de la région, va devoir trouver des fonds supplémentaires. Car avec la réforme de l'université et la mise en place d'attendu dès la rentrée de septembre, c'est potentiellement 100 000 étudiants supplémentaires qui pourront arriver dans les universités et des centaines à l'Université de Nantes. Dominique Averti, vice-président en charge de la recherche à l'Université de Nantes.
Rajouter des enseignements supplémentaires, modifier nos programmes, ça va prendre du temps, ça va demander de l'argent. Il est évident qu'à la rentrée prochaine, nous n'aurons pas des parcours adaptés dans toutes les formations et pour tous les publics. Pour autant, on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle. Le fait de mettre en place des parcours adaptés va aussi permettre logiquement d'améliorer le taux de réussite, donc de fluidifier finalement le parcours des étudiants et éviter d'avoir ce qu'on appelle un stock, c'est-à-dire des étudiants qui vont redoubler, qui vont retripler et qu'on n'accompagne peut-être pas assez actuellement vers la réussite.
Dominique Averti, vice-président en charge de la formation. Alors, pour favoriser la réussite en licence, le gouvernement prévoit dans ce projet de loi une aide d'1 milliard d'euros sur 5 ans, dont la moitié pour créer 134 000 nouvelles places dans les filières sous tension comme STAPS et Psycho.
Merci Hakim Kasmi. L'aéroport de Nice-Côte d'Azur a retrouvé un trafic normal. En revanche, des milliers de foyers restent privés d'électricité après le passage de la tempête Anna. Ce sont surtout des habitants des Hauts-de-France et de la région Pays de la Loire. Demain, le temps sera perturbé avec un ciel couvert et des passages pluvieux. Le soleil résistera sur le pourtour méditerranéen, mais il devrait tout de même pleuvoir en fin de journée. Les minimales iront de moins 3 à plus 7 degrés. Les maximales atteindront 5 à 13 degrés. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.